Romains chapitre 10, verset 13 à 21, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 13 à 21. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils ont... Excusez-moi, on va recommencer. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit... Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais Jésus dit, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant.
Merci, David. J'aimerais qu'on tourne dans Deutéronome, s'il vous plaît. Chapitre 7. Je vais faire un préambule avant d'arriver dans Romains 10. Deutéronome 7, verset 6, cette grande déclaration de Dieu. Dieu dit, « Car tu es un peuple saint, c'est-à-dire mis à part, pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. » pour que tu sois un peuple qui lui appartienne d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Je répète, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Je répète, car il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Au début de cette série du chapitre 10, j'ai choisi trois messages pour faire ressortir un thème qui est au travers de la Bible, qui est la souveraineté de Dieu, dans l'évangélisation, la souveraineté de Dieu dans ces trois couches d'élection. Et nous venons de lire dans Deutéronome, la première couche d'élection, Dieu a choisi Israël. Et parmi Israël, Dieu a choisi Judas parmi les 12 tribus. Deuxième couche d'élection. Troisième couche d'élection, nous la retrouverons dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 1, dans Romains, où Dieu choisit une église. Et ces trois couches d'élection ont tous quelque chose en commun. Ils sont là pour donner gloire à Dieu. Ils sont là pour proclamer Dieu par leurs paroles, par leur vie. Et nous arrivons dans le chapitre 10 et nous apprenons au verset 21 qu'Israël a failli à cette tâche. Et dans le chapitre 11, nous allons apprendre, les frères qui vont enseigner le chapitre 11, c'est qu'Israël a été rejeté temporairement, mais qu'il va avoir un jour une conversion nationale d'Israël. Mais que vient faire l'Église dans cela? Et j'espère que personne ici, lorsque je parle d'Église, pense que je parle du bâtiment. J'espère que non. Non, on sait tous qu'on ne parle pas du bâtiment. Faites un petit hochet de tête. OK? C'est sécurisant. On parle de nous, le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes nés de nouveau, nous, l'Ecclésia, hein? Le Saint-Esprit est en nous, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Le feu prendrait demain matin dans la bâtisse, il y aura encore l'Église du Dieu vivant au Cap de la Madeleine. Nous sommes ceux que Dieu a choisis, cette Église qui est composée, n'est-ce pas, de gens de toute langue, de toute race, de toute tribu, qui est composé de juifs et de non-juifs, de païens. Cette Église-là, qui est là pour une raison, qui est là pour annoncer et proclamer, et ce matin, je vous dis bien franchement, mon titre, c'est ma conclusion, et c'est tout ce que je veux dire ce matin. La responsabilité de l'Église et la proclamation de l'Évangile. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, les porte-parole pour Dieu devant nos contemporains en 2011. Nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. Et cette bonne nouvelle, c'est que c'est fini, fini, fini la confusion. Plus de confusion. Il n'y a plus 3-4 chemins. Il n'y a plus ces religions attrayantes de l'Orient. Il n'y a plus cette école de pensée où ce qu'on finit au trou. C'est fini, la parole est claire, la parole affirme, c'est fini, selon qu'il est écrit, selon qu'il est dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point quoi? Confus. C'est fini la confusion. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez, Seigneur, tu es le Seigneur. Il y a 2 semaines, je vous disais, peut-être pour nous en 2011, dire « Seigneur », c'est très banal. Il nous arrive des petites choses où on dit « Ah, Seigneur ». J'ai entendu des gens dire « Ah, Seigneur, ah, Seigneur, ah, Seigneur ». C'est presque un blasphème des fois. « Ah, Seigneur, ceci, puis ah, Seigneur, c'est ça ». Mes amis, lorsque l'apôtre Paul écrit dans ce premier siècle à l'Église de Rome, composée de juifs et de non-juifs, qui n'a jamais vu, il met le paquet. J'aimerais vous suggérer que les chapitres 9, 10 et 11 sont le nucléus, l'importance de tout Romain. C'est de réaliser cette naissance de cette Église qui porte l'étendard de Dieu devant les contemporains, qui est composée de juifs et de non-juifs, qui est composée d'hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Et nous sommes devant ces 4 questions de l'apôtre qui veut nous faire réfléchir ce matin. Parce qu'on a un problème. Houston, we had a problem, la vraie citation. On a un problème avec un calme extraordinaire. Ça a été popularisé partout. Mais est-ce qu'on réalise qu'on a un problème? C'est de perdre de vue le mandat que l'Église lui a été confié. C'est de perdre de vue la raison d'être de l'Église. Et regardez bien les 4 questions. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? S'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas l'invoquer. Il veut nous faire réfléchir. 2e question. Comment croiront-ils en celui donc ils n'ont point entendu parler? Ça s'adresse à nous. Bonne question. Regardez la 3e question. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous allez dire, c'est ça des questions, c'est ça. 4e. Comment y aura-t-il... Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Paul, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Quelle sorte de question que c'est ça? Pourquoi qu'on trouve ça dans le chapitre 10 de Romains? Ou le chapitre 9, on parle de prédestination, on parle de la souveraineté de Dieu. Dans le chapitre 11, on parle de la souveraineté de Dieu, où un jour, Israël, qui a rejeté son Messie, va se convertir à son Messie. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le chapitre 10? Ça vient nous parler, frères et sœurs. Ça vient nous interpeller chacun de nous. Ça vient de nous donner la raison d'être. Et ce grand mandat que Dieu nous a donné, cette grande commission, aller par toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est tellement épeurant citer ce verset-là, qu'on connaît tous par cœur. C'est comme l'eau sur le dos d'un canard, et ça ne nous touche plus le cœur du tout, du tout, du tout. Et lorsque la parole de Dieu ne touche plus le cœur, il ne fait que toucher l'extérieur de l'être humain. Peut-on réfléchir ce matin sur ces quatre questions? Parce que dans le fond, les bâtisseurs de paix, c'est-tu beau? Et dans ce même texte, nous allons lire, selon qu'il est dit, l'Écriture, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On a une Galéas qui est cachée là, dans le verbe annoncé. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il ne parle pas des orteils tout peinturés, toutes sortes de couleurs? Il ne parle pas non plus que ceux qui ont des beaux pieds et qui ne capotent ses pieds, non? Il ne parle pas de ça. OK? Il parle de quoi? Les démarches. Église, où est ta démarche? Où vas-tu, Église? Où vas-tu, enfant de Dieu, que le Saint-Esprit qui porte dans son cœur le flambeau de cette bonne nouvelle pour son contemporain? Qu'est-ce que tu fais avec? Où vas-tu avec? Quelles sont tes démarches? Individuelles et collectives. Isaïe 57, 52, verset 7 ce matin, que j'ai lu à la table du Seigneur, j'ai médité ça hier. Le bras de l'Éternel, quel privilège. Proclamez la bonne nouvelle. Regardez bien. Si on regarde ces textes, on vient de voir. Qui envoyer? C'est intéressant, c'est pas mission que là, hein? C'est apostello. J'ai une cravate ici. C'est marqué. Je voulais faire une photo, puis j'ai fait la photo, mais j'ai oublié de le transférer. C'est marqué dessus. On a mission from God. Ça fait 3 ans que j'ai ce cravate-là, c'est la première fois que je la mets. Je l'ai mis pour le message le matin. Je veux vous dire que moi, j'ai une mission. On a tous une mission de Dieu. Pensez à ça, Dominique. T'es en mission. Vous êtes en mission? Ouais, mais je te cite, moi, pour parler avec du monde. Qui Dieu va envoyer? L'autre? Je crois, moi, que l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu a envoyé l'Église, et c'est vous. C'est moi. Regardez, Caruso. Vous allez dire, oui, Michel, on n'est pas des prédicateurs, nous autres. Mais savez-vous ce que le mot prédication veut dire, là? Fait vibrer vos cordes vocales. Voyez-vous ça? Paul est en train de dire, en fin de compte, faites vibrer vos cordes vocales. Vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes envoyés. Mon père disait, quand il écoutait Louis Mariano, il disait, « Hey, ce gars-là, c'est un Caruso. » On n'est pas obligé d'être des Louis Mariano pour ça. Mais l'idée est là dans ça. Puis quand je voyais ça, je me disais, « Ben, tout le monde va dire, ben là, écoute, on ne peut pas aller prêcher toute la gang. » Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais vibrer tes cordes vocales. Et demande à ceux qui viennent en avant. C'est ce qu'on fait. Hein? Fais vibrer nos cordes. Ceux qui veulent passer, on a besoin de les entendre. Ça prend des auditeurs. OK? C'est logique, n'est-ce pas? Si tu te mets dans le miroir chez vous, dans ta chambre, tout seul, barré, puis tu commences à faire vibrer tes cordes vocales devant le miroir, ça ne donne pas grand-chose. Ça te prend un auditeur. Ces quatre questions-là nous amènent là. Puis regardez bien, ça produit la foi. Quelle sorte de foi? La foi, toujours l'objet. La foi dans la foi, c'est de la foi dans la boucane. La foi, toujours un objet précis. La foi, 10-17, dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est qui prie pour de la foi? Seigneur, le don de la foi, elle vient de la parole. Elle vient lorsqu'on parle et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Et lorsqu'on entend parler de cette bonne nouvelle, de l'Évangile qu'on a vu en 7 points il y a 2 semaines, qui transforme des vies d'une manière radicale et qui vise le cœur. Je vais vous parler de William Carey. Il est mort à 73 ans. Un gars qui a fondé les missions. Et c'est intéressant dans sa biographie. Carey a soulevé la question du devoir de tout chrétien. Je l'avais mis. Je pensais que je l'avais laissé. Il a écrit un livre d'une 100aine de pages. Son titre, c'est assez long. Regardez bien, regardez le titre. Enquête sur le devoir qu'ont tous les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens. 1789. En 1786, il y avait eu une controverse avec un hyper-calviniste. Et puis, dans un souper, Carey avait osé, un réparateur de souliers, qui en passant a traduit les Écritures en 42 langues et dialectes. C'était un gars qui avait le don des langues. Si vous voulez en rencontrer un, là, c'est lui. Carey soulève la question du devoir de tous les chrétiens de reprendre, de répandre, c'est-à-dire répandre l'esprit évangélique à travers le monde. Le père de celui qui l'avait baptisé lui aurait alors rétorqué, « Jeune homme, assoyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Il est prédestiné, pas besoin de toi. Et suite à cette conversation-là, il a écrit ce livre-là, 100 pages. Allez le voir, c'est effrayant, cet homme. Un homme qui avait compris, qui avait saisi que l'Église a une responsabilité de continuer parce que Dieu parle depuis le commencement. On va le voir plus tard. Mais nous, l'Église, nous avons cette responsabilité de proclamer l'Angelias, la bonne nouvelle. Regardez bien. J'ai fait un acétate bien dur à lire, là. Je vais reculer un peu, je pense. OK, Carey. OK. Missiologie. Quelle est la mission de l'Église? C'est l'Évangile. Qui veut dire quoi? Jésus leur dit de nouveau, « Paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. » Le même terme qu'on voit dans Romains 10. « Comme le Père m'a envoyé. » Qu'il dit à ses disciples, « Moi aussi, je vous envoie. » C'est le même verbe. « Je vous envoie. » Est-ce qu'ils ont compris les disciples du premier siècle? D'après vous, quand vous lisez les 30 premières années d'Église primitive dans les Actes, là, est-ce qu'ils ont compris ça, l'Église? Ça me fait de la peine, moi, les gens disent, il faut prier pour un réveil, il faut prier pour un réveil. Savez-vous quoi? Le réveil commence toujours par l'enfant de Dieu, il ne commence pas par celui de panier dehors, là, qui ne connaît pas Dieu. christologie, l'incarnation, c'est quoi? De la crèche à la croix à la résurrection. Le Seigneur se sert de nos pieds, de nos mains, de nos yeux, de notre bouche, de nos oreilles. Nous sommes là les représentants des ambassadeurs pour Christ. Et lorsque l'évangélisation, c'est l'option Z dans une église, c'est un drapeau rouge qui doit parler à cette église. Ecclésiologie, présence de Dieu, qui nous rappelle que nous sommes des temples, le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Tu rappelles ce matin. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est mis à part. J'ai bien aimé le commentaire de Jean-Luc l'autre semaine. Quand on voit saint, ce n'est pas sans péché, mais mis à part dans certains contextes. Et c'est ce que vous êtes. Mes amis, vous êtes en mission comme moi, comme Doug, comme Jean-Luc, comme M. Thibault. On est tous en mission. Excusez-moi si je ne vous nomme pas, là, mais je vais penser de tout vous nommer, mais ça va prendre trop de temps. Je vais vous demander comment vous vous appelez, vous, monsieur. Je ne vous connais pas. Bien, vous êtes en mission, vous, monsieur. Y a-t-il quelqu'un que je ne connais pas ici? Je ne vous ai jamais vu, jamais parlé, puis je peux vous dire, avec l'autorité de la parole de Dieu, que vous êtes en mission. Regardez, on va aller ensemble. Ça marche en, des fois, les gens font ça en envers. Hein? On bâtit une église, on parle de Christ, mais on fait la mission. L'inverse. On fait la mission, on sort l'évangile des quatre murs, on parle de Christ, l'ADN des convertis fait une nouvelle église et la présence de Dieu est là. C'est intéressant, acte. Rapidement, Actes 18, 9 et 10, je vous l'allège, c'est tellement beau. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne t'étais point. » Est-ce pertinent pour moi? Oui. Parle, Michel. Fais vibrer tes cordes vocales. Que ce soit au McDonald's, au Tim Hortons, là, je vous donne mes places, là. AW. Parle. Car je suis avec toi. On n'est pas tout seul. Même d'ailleurs, on n'est que des instruments dans la souveraineté de Dieu. Et la grâce de Dieu touche le cœur. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, Paul. Parle, Paul! Parle! Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville de Corinthe qui a passé un ennemi à évangéliser. Mais ils ne sont pas encore chrétiens, puis ils disent « Reste là, puis ils vont se convertir. » C'est intéressant? Ça, c'est dur à lire. Oh! Parle, 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 parle! Celle-là, je cherchais tout à l'heure. Parle! Parle! Toi, le temple, toi, enfant de Dieu, toi qui es béni de Dieu, toi qui étais gracié dans la souveraineté de Dieu, parle, parle, parle. Il y a un peuple nombreux au Cap de la Madeleine. Ne te tais point. Parle, parle, parle. Je te dis, il est fou ce gars-là, matin. Parle, parle, parle. Gaston Racine m'avait dit une fois, il dit, moi, il dit, quand je prêche, je dis, je prêche comme si c'est ma dernière prédication. C'est ma dernière prédication. Parle. Paul à Antioche, de Pisidie, acte 13, 48. Regardez comme c'est beau. Les païens se réjouissaient. En quoi? En auditeur. Entendant cela. Ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. C'est-à-dire, excusez, tous ceux qui étaient destinés assaut à la vie éternelle crue. Mon frère travaille pour un grec à Bravo Pizzeria. Savez-vous comment il s'appelle? Tasso. destin. Il est plus long que ça, là, ils en ont 5-6 à côté de l'autre. Puis quand je l'ai rencontré, ah, il dit destin. Il dit comment ça, tu sais ça? Ben, je lis la Bible. Voyez-vous? On est rendu comment au cas de la madame? 135 000, je pense, avec la fusion? Peu importe. D'après vous, la grâce de Dieu, ça va-tu au-delà des quatre murs, vous êtes? Ben oui, hein, on le sait. Laissez pénétrer ça, là, et qu'on voit comment Dieu voit la mission. Parce qu'on est tous envoyés. On est tous en mission. Il y en a qui vont être envoyés aux extrémités de la terre, d'autres vont être envoyés à Jérusalem, d'autres vont être envoyés en Juda, d'autres à Samarie. OK, 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 correct. Mais on l'est tous. On l'est tous. Un rendez-vous avec Dieu. Ironside, Dr. Ironside, il compte une histoire, je l'ai mis pour vous montrer une belle table. Hein? C'est... Il compte l'histoire d'un homme qui arrive à une place, par la grâce de Dieu. Il arrive là. Il voit une pancarte, « Bienvenue à tous ». Il rentre, il y a quelqu'un qui l'accueille. Il l'emmène à des tables de noces de même. Il y avait plein de tables de noces. Il l'amène, puis il l'assied d'une chaise, devant une assiette, puis une carte. Puis il voit son nom écrit dessus. Le nom du gars est écrit dessus. Vous avez déjà pensé combien qu'en reste à rentrer là? Les places sont vides, ils attendent d'avoir le bienvenu. Vous savez, de plus en plus, je crois que partager notre foi, c'est l'affaire la plus difficile et la plus simple en même temps. C'est paradoxal. Pour avoir expérimenté des gens qui viennent au Seigneur par deux, trois phrases, puis avoir expérimenté des gens qui t'envoient après deux, trois heures, tu te dis, c'est quoi la différence? J'ai dit la même affaire à tout le monde. C'est Dieu qui a fixé le rendez-vous. Il nous utilise comme les porte-paroles de ceux qui sont envoyés pour donner le mot de Dieu dans la mêlée, dans la foule. Si vous saviez les gens, j'ai témoigné à cause du procès du docteur Turcotte, là, vous créerez pas. Donnez ce que Dieu dit de ces choses-là. Mes amis, il faut parler. Leur voix est allée par toute la terre. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Isaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Citation d'Isaïe 53. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avec Israël a fait parler de lui aussi. On a entendu parler des Égyptiens, de Moïse. On a entendu parler de Ninive. On a entendu parler de la puissance à Jéricho. De l'éternel Dieu. On a entendu parler. Mais à quelque part, l'Église aujourd'hui est mandatée, juif et non-juif, mais je dis, Israël n'a-t-il pas su? Moïse le premier a dit, et voyez cette prophétie, « J'exciterai votre jalousie, par ce qui n'est point une nation, et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence de Dieu. » Ça, c'est nous autres, les païens. C'est fort que Moïse ait dit ça. Hein? Et Isaïe pousse la hardiesse à dire, quoi? « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » L'Église, les païens, les non-juifs, qui pour un juif, c'était la pire des catastrophes. Le juif qui priait le matin, qui disait « Merci Seigneur que je ne suis pas une femme, je ne suis pas un païen, puis je ne suis pas un chien. » Pas des farces, là, mais le premier, c'était le même. Romains 10 vient de nous apprendre que la responsabilité d'Israël est tombée sur nos épaules. Nous, l'Église, composée de juifs et de non-juifs, de toute langue, de toute tribu, de toute race. Regardez Exode, je vous l'ai mis ici littéral. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, la souveraineté de Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, Israël, une nation sainte, Israël, mise à part pour moi. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais à cause du rejet du Messie, de leur Messie, qui ont crié « Crucifiez-le !» Le mandat est transféré à l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, Église, enfant de Dieu, qu'est le Saint-Esprit, une race royale, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous, quoi, annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dans les ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous la prophétie, voyez-vous Romains 10, pourquoi que c'est important? Ça remet en place ceux qui proclament le Dieu créateur du ciel et de la terre à cause du rejet du Messie dans le premier siècle. Nous sommes les porte-paroles, nous l'Église. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas, vous n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La grâce de Dieu. Grand privilège, grande responsabilité. Ah, je me souviens toujours de Spider-Man quand je dis ça. Tu sais, le film de Spider-Man, c'est quand son il se fait tuer là, puis il dit qu'il a des pouvoirs, là. Puis il dit, tu as des grands privilèges, tu as des grands pouvoirs. On n'a pas grand pouvoir nous autres, là, en tout cas, là. En tout cas, il y a des grands privilèges. Puis des grandes responsabilités qui viennent avec. Et c'est pour ça que j'ai mis hier Israël, aujourd'hui l'Église, mais on reste dans le chapitre 10. Hein. Dans le chapitre 11, ça va être demain Israël. Mais vous comprenez l'idée? Et le verset 1 finit, puis c'est pour ça que ça finit à brut. J'aime pas trop la coupure, là. Mais c'est parce qu'on continue 11, on comprend mieux pourquoi c'est écrit 21, là. Donc les frères vont enchaîner probablement. Mais au sujet d'Israël, il est dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contradisant. » Wow! Cette semaine, vous allez lire Deutéronome, à partir du chapitre 8, jusqu'au chapitre 12, chapitre 11. Vous allez lire 8, 9, 10. Mais vous pouvez continuer à lire si vous voulez. Vous allez voir un terme qui revient. Peuple au cou raide. Israël, l'histoire de l'Ancien Testament, Rosenthal l'avait dit, tu te rappelles quand on était là-bas? Bill était là. Tu veux comprendre l'Ancien Testament? Israël est béni, il obéit à Dieu. Israël désobéit, Dieu envoie un prophète, la repentance, il remonte. C'est en dent de scie. Puis là, on est dans le bas d'une dent de scie, là, présentement. Mais ça va remonter. Qui n'a pas dit à moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, comment se fait ça? Avec tous les miracles qu'il y avait dans ce temps-là. Dans le temps de l'Ancien Testament, je parlais là, de la marche dans le désert, je parlais de la manne, la lumière, séparer les eaux. Je voyais tout ce que Dieu avait fait pour Israël, les emmener en Canaan, Jéricho, les Anakim, etc., etc. Je me dis, comment se fait ça qu'ils n'obéissaient pas plus? Mais sans m'avoir été là, moi j'aurais cru. M'a dit de quoi, si une lumière en plein soir me pète dans la face, puis j'entends la voix de Dieu, je prends, Là, ça ne se fera pas dans le temps de la grâce, là. Mais tiens, qui n'a pas dit ça? Mais attention, c'est à notre tour. C'est à notre tour de parler de la part de Dieu, d'être le flambeau pour Dieu dans un monde pervers et corrompu dans lequel on est. J'ai ramassé une citation, je pense que c'est Paul Garnett, des années, d'une conférence à Trois-Rivières, ça fait longtemps. Hein? Paul Garnett est venu. Puis il a dit, on peut décrire l'Église en trois mots. Très simple. L'Église est premièrement confessante. Elle confesse Christ, elle confesse. Elle a quelque chose à dire, à part. Parce qu'il y a des auditeurs. Elle s'arrange pour avoir des auditeurs. L'Église est en mouvement. Toujours en mouvement. Dans l'histoire. Elle est persécutée, oui, mais elle est en mouvement. Et souffrante, c'est la persécution. Pensez pas confesser sans être en mouvement et pensez pas ne pas souffrir si vous mouvez. Si vous êtes en mouvement. Ça vient avec. Ça vient avec. Si tu confesses, puis tu dis comme le monde dit, puis tu es complaisant, puis que tu annonces pas la réelle évangile, comme qu'on a vu il y a deux semaines avec les sept points, c'est correct. Tu as ta religion et ma religion. Si tu es en mouvement, puis tu penses que tu souffriras jamais, c'est faux. Tu vas souffrir. Parce qu'on est tous à contre-courant. On est des saumons qui montent le contre-courant pour retourner où ce qu'on doit aller. Et n'oublions pas qu'on est voyageurs et pèlerins sur cette terre. Et le dernier critère, dernier trait, plutôt, de l'Évangile, c'est l'immortalité dans l'éternité. Préparons-nous à quitter cette terre. Avez-vous peur de ça? Je suis un mourant. Je vous annonce ce matin là, que moi, je suis un mourant qui parle à des mourants. Savez-vous ça? On va se lever debout pour prier, pour terminer. Quelqu'un me dit l'autre jour, Michel, on n'est pas dans l'Église catholique, qui sait se lever debout tout le temps. Croyez-vous que Dieu vous voit? Presque Néo, là, dans son dictionnaire, là, c'est face contre terre, like a dog licking his master's hand, comme un chien qui lèche la main de son maître. Humilions-nous devant le Seigneur. Moi, le premier, je vais rechercher des événements et des choses. Je n'ai pas fait vibrer mes cordes vocales pour Dieu. Mais je ne suis pas ici pour vous culpabiliser. Ce n'est pas mon style. Moi, je suis en récupération. Je récupère mon âme. Puis je cherche à récupérer vos âmes. Brûlant, passionné pour partager la bonne nouvelle pour Dieu. Vous avez un trésor en vous-même. Réalisez-le ce matin. Prions ensemble. Seigneur, on est tous sous ton regard de flamme. Rien n'est caché, rien n'est couvert. On est debout devant toi, Seigneur Dieu. Nous, on devrait tous se coucher à terre, Seigneur, dans le cendre et le sac, comme l'Ancien Testament. Seigneur, assiste-nous. Dirige-nous vers ces âmes qui ont faim et soif de toi, ces âmes qui, leur nom est écrit sur une table aux noces de l'agneau. Donne-nous, Seigneur Dieu, de proclamer, annoncer, parler de notre Sauveur et Maître. Seigneur, donne-nous une hardiesse, un courage de vaincre la gêne, la gêne du ridicule, la gêne d'être moqué, la gêne de donner le mot de Dieu dans la mêlée dans laquelle on est présentement dans ce monde. Seigneur, nous voulons te demander de nous responsabiliser comme Église et de nous rappeler que nous sommes tous envoyés en ton nom pour faire vibrer nos cordes vocales. Nous sommes appelés comme Église à envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, même, là où ce que tu nous appelles chacun. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs ce matin et sépare-nous avec ta bénédiction. Amen.
Amen.